Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'écoute du dernier numéro de l'année. Déjà, le temps passe trop vite quand nous sommes en bonne compagnie. Merci à mes chroniqueurs autour de moi de me suivre dans cette jolie aventure radioculturelle et de signer pour 2024. Cette semaine, on parle musique avec Guillaume et son invité Quentin Audemars, alias Mézinc, musicien et producteur lyonnais. Gaël nous livre ses impressions sur la dernière exposition du Musée des Beaux-Arts, Forme de la Ruine, et Thomas lit en fin d'émission les mots de Pierre Jourde, morceau choisi dans son roman Pays perdu. Et pour terminer, quelques coups de cœur pour bien terminer l'année, je veux parler bien sûr de nos Gédéon. On débute avec Guillaume et son invité, Quentin Audemars, alias Mézinc, musicien et producteur lyonnais, comme je le disais à l'instant. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour Quentin. Alors moi, je voulais absolument te voir d'ailleurs pour la dernière émission pour Noël. Ça va être un feu d'artifice. Bien. Parce que je t'ai vu et écouté surtout récemment donc aux abattoirs de Bourgoin.
C'est ça.
Et j'avoue que j'étais un petit peu subjugué alors que ton esthétique musicale, c'est pas la musique que j'écoute d'habitude. Ouais. Est-ce que tu peux présenter ton projet et puis nous dire un petit peu ce que tu fais? Parce que le mot électro, ça veut pas dire grand-chose.
Ouais,
parce que quand on fait des recherches électro, trance, dubstep, drum and bass, moi je n'y connais rien, donc j'aimerais mieux que tu nous présentes un peu le genre musical que tu pratiques.
Moi je fais de la musique électronique, c'est vrai que c'est assez large quand je dis ça. Il y a des sous-genres comme dans le métal, il y a plein de sous-genres, et dans l'électronique, les sous-genres où je suis le plus proche c'est l'électronica et la techno. Et l'électronica, ça plaît beaucoup à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de la musique électronique, parce que ça s'inspire aussi de la musique classique, de la musique contemporaine et de la musique répétitive. C'est une bonne porte d'accès pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de la musique électronique, de passer par des styles un peu plus doux, un peu plus mélodieux. La dernière fois aux abattoirs, et je présentais aussi un show visuel assez important avec des vidéoprojecteurs, de la lumière, ce qui permettait aussi d'accrocher un peu plus le spectateur à mon avis.
Alors justement, j'allais y venir, effectivement c'est de la musique, t'es au centre de la scène, t'as tes appareils et puis les vidéoprojections sur toi. Récemment j'avais dit un peu Actarus, moi ça me plaît beaucoup. Alors ouais. C'est pas ta génération, moi j'étais la génération Goldorak.
Exactement, alors quand je joue certaines notes et que je tourne certains boutons, ça peut faire grossir ou diminuer l'image qui est projetée sur moi. Donc c'est des formes de des sortes de petites particules qui sont projetées sur moi, particules blanches. Je suis habillé avec un t-shirt holographique qui permet de refléter aussi la lumière en prisme. Du coup, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, je trouvais ça assez important de pouvoir diffuser ça comme ça. Et puis, il y a aussi une autre vidéoprojection qui est derrière moi et qui est aussi très importante et qui permet de projeter des sortes d'hologrammes sur de la fumée et dans le public, et les gens peuvent jouer avec les faisceaux, les personnes du public. Donc ça, c'est aussi un côté très immersif.
Ah oui, complètement, parce que là le public était, voilà, on les voit quand on se retournait vers le public, les gens bougeaient les mains, voilà, s'amusaient avec la lumière. Il y avait un côté vraiment féerique en fait dans le spectacle.
Ça fait un petit peu des aurores boréales en fait. Je me suis inspiré de ça. Il y avait des projections avec souvent avec des lasers où les gens s'amusent à faire des aurores boréales avec de la fumée et des lasers. Et moi, je trouvais ça pas mal de le faire avec de la vidéo pour avoir plus de possibilités, parce qu'avec un laser, on est très limité, souvent à quelques couleurs et quelques formes. Alors là, on peut vraiment faire des... Enfin, avec la vidéo, on peut vraiment faire des formes beaucoup plus complexes et des couleurs plus complexes aussi. Et c'était créé vraiment partie par partie, donc tout est synchronisé entre la musique et le son. Donc je peux vraiment doubler mon morceau, le supprimer, le raccourcir, et ça me suit tout le temps. C'est vraiment quelque chose que j'ai complètement conçu de A à Z. Que ce soit la musique ou la vidéo, j'ai voulu vraiment avoir le total contrôle.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, souvent dans la musique électro, on se dit qu'on est un peu prisonnier des machines.
Il y a beaucoup de contraintes avec la vidéo, la lumière, le travail de cette année d'essayer de recréer du contrôle et de la jouabilité dans ce spectacle-là, enfin dans ce show. Ça, c'est vraiment le travail de tous les instants, parce que se faire dépasser par ces machines, c'est très très facile. Du coup, réapprendre à les contrôler, à les manier, ça, c'est vraiment mon job de tous les jours.
Ça, c'est la scène, mais quand même, tu as sorti déjà deux EP.
C'est
tu es en train d'enregistrer peut-être un nouvel EP ou un album pour 2024, c'est ça ?
Il y a plusieurs sorties. Il y a un double single plus un EP qui viendra l'année prochaine. Ça sera un peu plus dance. Dans le sens où j'ai envie de pouvoir faire danser les gens pendant les concerts. Je sais faire de la musique pour des lieux assis aussi. J'ai déjà joué à l'Opéra Underground à Lyon, où là, c'était vraiment un public assis et plutôt d'écoute de la musique électronique de salon, entre guillemets. Et là, j'avais envie de plus de développer de la musique électronique de club pour danser, pour s'amuser, pour s'exprimer autrement que juste à l'écoute. Et des belles images sur internet.
Mais tu fais pas que ça, parce que récemment tu as sorti un EP lié à une compagnie de danse, la compagnie Nalo. Et tu peux expliquer un peu cette aventure, parce que là c'est un projet complètement différent. Est-ce que tu as écrit la musique avant que la compagnie danse dessus, ou tu as vu les danseurs et tu as écrit la partition?
On a vraiment collaboré vraiment en direct. Donc les premières rencontres avec la compagnie de danse, c'était de l'improvisation, où j'essayais de les suivre, comprendre les corps, les mouvements, essayer d'avoir des jeux, un peu comme un discours avec eux, essayer de les suivre. Ils me donnaient des impulsions, j'essayais de les suivre. Je leur répondais question-réponse, quoi, un peu ce phénomène-là. Et puis après, j'ai voulu passer à des choses beaucoup plus écrites, parce que c'était plus facile pour la chorégraphie. Ils avaient aussi besoin d'avoir des choses écrites sur lesquelles se poser et poser la chorégraphie. Donc on faisait ça toujours en parallèle. J'ai travaillé pendant 5 semaines avec eux dans des théâtres, dans des centres chorégraphiques pour travailler sur cette création là. Il y a un EP qui est sorti qui s'appelle Il, du même nom que
on peut écouter sur Bandcamp,
toutes les plateformes,
sur Spotify. On va peut-être écouter ton dernier titre qui fait pas partie de cet EP.
Mon dernier
single. Le dernier single, je sais pas si c'est le terme. Je vais te laisser le prononcer, parce que je ne sais pas trop comment le prononcer, ce mot.
Alors on le dit MOF.
Oui.
Il y en a plein aussi qui le dit MOT, mais moi je le dis MOF parce que je crois que c'est la bonne.
M O T H.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un papillon de nuit et je trouvais ça assez joli. Je faisais aussi les pochettes album un peu abstraite et ça me faisait un peu penser à ça. Je trouvais ça joli, quoi.
Eh bien, allons voler avec le papillon de nuit, avec Moth. Donc on vient d'écouter Mézinc avec son nouveau single Moth. Et puis peut-être que tu as des dates de concert annoncées, peut-être pas encore.
Le 20 décembre, il me semble, une sortie d'un nouveau live, une nouvelle live session tournée au marché couvert de Villefranche-sur-Saône. C'est un très beau lieu, ça a été tourné en pleine nuit. J'y ai tourné l'année dernière.
Bah écoute, bonne continuation et puis bons enregistrements pour
Merci
le futur.
Merci Guillaume.
Mais de rien.
Nous poursuivons avec toi, Gaël, pour évoquer l'exposition du Musée des Beaux-Arts, Forme de la ruine, une thématique qui résonne avec traces du temps, archéologie, mais aussi avec guerre et destruction massive. Nous t'écoutons.
Alors, que vous évoque le mot ruine ? Comment les artistes s'emparent-ils plastiquement des ruines ? Avec quelle symbolique ? Après 3 ans de travail, en s'appuyant sur l'ouvrage « Une histoire universelle des ruines » de l'archéologue, professeur et historien Alain Schnapp, commissaire de l'exposition avec Sylvie Ramon, Forme de la ruine propose plus de 300 œuvres des arts premiers à l'art contemporain. Ruine vient du latin ruina, l'effondrement, le désastre, terme plutôt péjoratif, mais aussi de vestigium, soit l'empreinte, marque et trace qui seront comprises par les générations futures. Littéralement, vestigium signifie la trace d'un pied, et au figuré, la piste, au sens trace de pas. Les ruines, c'est ce qui reste. Tout ce que nous fabriquons est destiné à périr. La ruine n'est donc pas une conséquence du passé, mais du futur. Pour Ansel Kiefer, présent dans l'exposition avec une série de photographies, la ruine n'est ni un scandale, ni une catastrophe, mais un commencement. Le Musée des Beaux-Arts organise Forme de la ruine en 4 grandes sections. Mémoire-oubli, nature-culture, matériel-immatériel, et présent-futur. En matière de représentation de la ruine, l'un des grands maîtres est Hubert Robert. Lors d'un séjour à Rome, il est marqué par l'antiquomanie, cette manie de collectionner des objets antiques qui se développe considérablement suite à 2 découvertes majeures, Herculanum et Pompéi, sites détruits par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. L'œuvre emblématique d'Hubert Robert, vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine, est présente dès le début du parcours. L'évocation de l'éruption du Vésuve est aussi traitée dans un magistral tableau aux couleurs incendiaires de Pierre-Henri de Valenciennes. L'artiste représente la mort de Pline l'Ancien qui, ayant voulu trop s'approcher pour voir l'éruption, mourut asphyxié par la fumée. L'homme reste bien impuissant face au déchaînement de la nature. Les premières traces de vestiges humains datent du paléolithique. Prise de conscience initiale que les objets sont porteurs de mémoire. La ruine participe à la lutte contre l'oubli. Une vitrine comportant des fossiles, bracelets et perles révèle les prémices de la collection. Alain Schnapp souligne combien ces objets sont des sémiophores, c'est-à-dire des objets porteurs de sens. Ils indiquent le rapport qu'une société décide d'entretenir avec le temps. En vis-à-vis de cette vitrine figurent des œuvres de l'artiste cubaine exilée aux États-Unis, Ana Mendieta. La photographie issue de sa série Silhouette Travaux à Mexico dévoile son autoportrait devant une tombe zapothèque. Le corps de l'artiste est entouré de fleurs en référence au rituel funéraire. Même placé devant une tombe, ce corps est bien vivant. Quoi qu'il arrive, la vie et la nature perdurent. La ruine, c'est aussi la volonté de ralentir l'oubli. Idée qui s'incarne dans la présentation d'une petite pagode en bois tourné. L'histoire de cette pagode est incroyable, car il y en avait 1 million. Afin d'honorer Bouddha et sans doute aussi pour ne pas tomber dans l'oubli, l'impératrice japonaise Shotoku, de l'époque Nara, 8e siècle, avait fait sculpter 1 million de pagodes. Elle en avait donné 100 000 aux 10 grands temples de la ville de Nara. Shotoku inscrivait ainsi son nom et la mémoire de son histoire à travers cette démultiplication. Michael Rakovitz, artiste américain d'origine irakienne, a reconstitué des œuvres pillées du musée de Bagdad. Environ 15 000 pièces ont été volées ou détruites en avril 2003 pendant la guerre en Irak. Une vitrine présente une série de 10 artefacts que l'artiste a conçus avec du papier mâché réalisé à partir de journaux du Moyen-Orient et de canettes de jus de date, boissons chanson qui faisait, entre autres, vivre le pays avant le blocus américain. Cette série s'accompagne d'une déclaration relevée dans un catalogue de 1976 du musée de Bagdad. Je cite un extrait. « La société qui possède de nombreux et beaux musées a une mémoire historique plus forte que la société qui n'en possède pas. » Les artefacts de Michael Rakowitz réactivent parfaitement cette volonté mémorielle. Ranimer des lieux devenus fantomatiques, c'est aussi le propos d'Elisaveta Konovalova. Dans sa saisissante vidéo de 5 minutes 40, l'artiste russe nous embarque dans une visite guidée des monuments de Kaliningrad. C'est depuis un tramway qu'une guide, micro en main, égrène l'histoire de monuments qui ont été. Car par les vides du tramway ne défilent que des lieux déserts. Circuit touristique classique, mais pour une visite spectrale. Le spectateur oscille entre rire jaune et stupéfaction. Vidéo troublante, ahurissante et éloquente. Autre œuvre poignante, une souche de Verdun vitrifiée, signée Pascal Convert. Cette pièce a été réalisée en versant du verre brûlant dans une souche d'arbre de Verdun qui s'est ensuite transformée en cristal. Cette souche avait été arrachée lors de la construction de tranchées à Verdun. En vis-à-vis figure une monumentale photo d'Éric Poitevin, une vue de la forêt domaniale de Verdun, forêt devenue sanctuaire. Avant la bataille de Verdun, cette forêt était luxuriante. Aujourd'hui, les parcours balisés de promenade sont obligatoires car les sols sont toujours pollués par les métaux lourds. Pascal Convert, l'auteur de la souche de Verdun vitrifiée, propose également une vidéo faite en Afghanistan qui s'intitule « Les enfants de Bamiyan ». Pascal Convert travaille avec la société Iconem, spécialisée en numérisation 3D de sites patrimoniaux, notamment d'archéologie dans les zones de guerre. Depuis 2016, Iconem a ouvert un fonds de dotation pour la protection du patrimoine menacé avec des missions de numérisation d'urgence. Pascal Convert a ainsi réalisé la modélisation 3D de la falaise de Bamiyan. Le duo d'artistes libanais Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej donne à voir des échantillons de prélèvement de sol, des carottes. Nommés Time Capsule, donc capsule temporelle, ces sondages carottés de sol de chantier de construction à Paris, Beyrouth et Athènes révèlent les strates d'occupation successives. Une carotte a particulièrement foré un matériau de notre époque, du plastique. Âge de la pierre, bronze, fer, puits. On suppose que les archéologues du futur nommeront notre ère l'âge du plastique. Trois maquettes font aussi leur entrée au musée. Anne et Patrick Poirier présentent deux maquettes de villes en ruine, dont l'une porte un titre emprunté à l'Énéide de Virgile. Il est facile de descendre dans l'Averne, c'est-à-dire l'enfer. Ce titre est inscrit sur le rebord extérieur des maquettes en latin. Question : quelles sont les traces aujourd'hui de cette langue morte ? Autre maquette, celle de l'artiste syrien Khaled Dawa. Une saisissante, fascinante et dramatique reconstitution du quartier de la Ghouta à Damas, où des rebelles et des civils ont subi en 2013 de meurtriers bombardements au gaz sarin. Réalisée en contreplaqué, carton, polystyrène, bois, verre, mais aussi végétaux et argile, la maquette nous donne à voir un univers que l'artiste a dû fuir. Le titre de la maquette, « Voici mon cœur », révèle combien le cœur de l'artiste est brisé en miettes. Cette œuvre de grande ampleur commémore la révolution syrienne, les ravages de la dictature de Bachar al-Assad et de la guerre. Vous croiserez peut-être Khaled Dawa qui vient régulièrement parachever cette ville en ruine. Démarche de work in progress faisant écho au combat qui ne cesse pas. L'œuvre sera-t-elle un jour finie ? La guerre le sera-t-elle un jour aussi ? Sophie Rissel-Hubert travaille sur les cicatrices, celles laissées sur la terre et sur la peau. Dans la série Everyone, tout le monde, la photographe cadre en gros plan un épiderme strié de cicatrices qui semble ainsi se dresser comme des monuments. Dialogue tout à la fois intime et radical entre histoire de peau et histoire patrimoniale. Je vais finir, même si ce panorama est loin d'être exhaustif, par Nymphée d'Eva Jospin, œuvre qui nous interpelle directement. On s'interroge, où sommes-nous ? Quel est ce lieu représenté ? Certains penseront aux grottes d'agrément, ces fameuses constructions ornementales de rocailles aménagées dans les jardins d'agrément. Mais le titre Nymphée renvoie à un sanctuaire consacré aux nymphes, avec une grotte abritant une source. Cet univers sculptural fantastique nous invite au rêve. Des génies ou des elfes pourraient presque en surgir. En utilisant le carton alvéolé qui, selon Eva Jospin, exprime la liberté, c'est comme le crayon mais ramené à la sculpture, l'artiste travaille avec un matériau périssable. Signal d'alerte, la terre devient aride. Seules quelques représentations, ça et là, en laiton doré, rappellent un âge d'or. L'exposition Forme de la ruine est dense, certes, munissez-vous bien de l'audioguide, mais passionnante et fortement recommandée. Elle est programmée au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 3 mars 2024. Plus d'informations sur mba-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle pour ta chronique. La dernière de l'année.
Nous poursuivons avec la lecture de Thomas. Bonjour et merci pour tes choix qui nous font voyager. Tu nous proposes cette semaine les mots de Pierre Jourde, un extrait de Pays perdu, roman sur son village natal. On parle de cet auteur et critique littéraire pour l'Obs après ta lecture si tu veux bien.
Les Soubérans ne viendront pas. Il n'y a pas bien longtemps qu'ils sont morts. Madame Soubéran tenait l'auberge du temps où ce hameau de 25 habitants s'offrait encore le luxe d'une auberge. Ce fut aussi pendant longtemps le siège de l'unique appareil téléphonique. Les coups de fil étaient rares. De temps en temps, on voyait la petite silhouette mince et noire de Madame Soubéran se planter au milieu du chemin entre église et auberge et lancer le cri du téléphone. Celui qui l'entendait courait prévenir l'heureux récipiendaire. Monsieur Soubéran était l'un des deux borgnes du village, l'autre étant accidenté de la route à l'œil pendant. Lui, on ignorait comment cela lui était arrivé. Était-ce à cause de cet œil unique, on lui prêtait une clairvoyance extraordinaire. Dans un pays où rien n'échappe à personne, Soubéran était celui qui voit tout et sait tout mieux que tout le monde. Il ne quittait pourtant guère la minuscule cuisine de l'auberge et je l'ai toujours vu assis dans son fauteuil, le journal sous le nez. Mais il possédait des jumelles. Où qu'on fût, au cœur de la forêt, au fond des gorges, on imaginait les yeux de Monsieur Soubéran, humectés et grossis par les vers, nous scruter du fond des jumelles. Mais peut-être son apparence nourrissait-elle cette angoisse scopique. Monsieur Soubéran était extraordinairement maigre et osseux. À l'arrivée d'un visiteur ou de client, lorsque l'auberge fonctionnait encore, il se fendait d'un mince sourire. Fendait est le terme exact, car Monsieur Soubéran disposait de très peu de peau pour effectuer cette opération. En dépit du caractère réservé du sourire, une fissure s'ouvrait dans le visage étroit, qui du coup menaçait de se scinder en deux. L'épiderme, tiré, découvrait beaucoup de dents, dont certaines en métal, et se collait plus étroitement au crâne, dont on apercevait distinctement les modelés. L'œil de verre lançait un éclat. Le sourire de Monsieur Soubéran faisait paraître une tête de mort à la place de son visage. Il est probable qu'il n'y pouvait rien. Peut-être était-il un bon vieillard, mais son sourire a toujours empêché qu'on voie en lui autre chose qu'un squelette déguisé en homme. Un jour, sans avoir bien prévenu, Monsieur Soubéran a renoncé à son peu de chair et de peau. Il est devenu ce squelette patient qui avait souri par sa bouche et qui l'avait attendu toute sa vie. Juste avant, il avait réussi à maigrir encore un petit peu. Madame Soubéran était une femme posée, intelligente, que peu de choses semblaient pouvoir ébranler. À 80 ans, elle en paraissait 15 de moins. Après la mort de Monsieur Soubéran, elle s'est défaite d'un coup. Elle n'a pas pu survivre à la disparition de ce très peu d'hommes qui, dans un coin de la cuisine, déchiffraient longuement la montagne.
Merci beaucoup Thomas, quelle belle lecture. Pierre Jourde, ce n'est pas un inconnu, hein, c'est quelqu'un que moi je connaissais pas tant pour ses écrits personnels que pour ses chroniques dans l'Obs.
Oui, tout à fait. Oui. Chronique littéraire très 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 exigeante.
Absolument.
Garant, on pourrait presque dire, d'une vraie langue, d'une vraie recherche littéraire. Hein, il avait écrit d'ailleurs un manifeste sur la question, dans la filiation de Gracq un peu. C'est un roman que j'ai lu il y a beaucoup d'années et qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé parce que déjà la langue est magnifique, c'est gavé de portraits de personnes comme on n'en croise presque plus. Hein,
c'est vrai.
C'est vraiment comme son nom l'indique, hein, le pays perdu. Et ce qui m'avait frappé presque par hasard quelques années après, c'est de lire la suite qu'il avait écrite de ce livre qui s'appelle La première pierre et qui est en fait le récit de l'accueil de ce livre dans ce village. Parce que ce n'était pas un village imaginé et c'est le village d'origine de sa famille où il avait toujours une maison de famille où il se rendait pendant les vacances. Et Et donc, en fait, je vais faire une histoire très courte. Hein. Il faut vraiment lire ce livre. Enfin, ces deux livres, hein, parce que vraiment, les deux...
Ça se suit.
Ça se suit avec quelques années d'intervalle et avec un style d'écriture qui n'a rien à voir entre les deux. Parce que là, on est vraiment dans un travail littéraire sur ce premier. Le deuxième, c'est presque sociologique et encore ému de ce qui s'est passé. Parce que... Le premier livre a été connu par le on-dit. Manifestement, les gens du village ne l'avaient pas lu, mais avaient entendu parler du livre et l'avaient accueilli comme le regard d'un intellectuel méprisant sur les gens du cru. Et c'est le récit d'une violence de monde qui ne se comprennent pas. Il prend du recul, hein, il jette pas du tout la pierre justement à ses habitants du village, mais il a passé des moments atroces, hein, avec... Des caillasses sur ces gamins en bas âge. Enfin, bon, c'est un regard. C'est des événements très durs. Un auteur qui a commis un ouvrage d'une beauté incroyable. Hein. Pour moi, je le classais juste à côté d'un Giono, non pas en littérature régionale.
Tu nous as lu il y a
quelques
semaines, Giono.
Oui, c'est vrai. C'est toujours péjoratif de parler de littérature régionale, mais c'est vrai que c'est ancré dans un territoire.
Oui.
Mais c'est de la très, 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 très belle littérature. Ouais. Je conseille la lecture de son blog, hein, où il est très, très bien écrit et puis jamais en surface. Hein, c'est...
On mettra les liens sur le blog de Pierre Jourde. Merci, Thomas.
Merci, Gaëlle.
Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos célèbres Gédéon. Alors, en cette fin d'année, qu'est-ce qu'on conseille à nos auditeurs ? Guillaume, tu commences ?
Oui, alors moi, ce que je voudrais conseiller, c'est d'aller chez les disquaires, les disquaires de Lyon.
Très bien. La semaine dernière, j'incitais à aller chez les libraires. Tu as bien le droit aux disquaires.
Exactement. Et il faut dire qu'on a de la chance à Lyon parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de disquaires. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, moi, il y en a deux ou trois que j'apprécie énormément. Et notamment, j'aime beaucoup le disquaire qui s'appelle Sofa, qui est donc rue d'Algérie. Et Pierre vous accueillera pour vous conseiller merveilleusement bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à Noël, eh bien, ben eux aussi font des bons cadeaux. Voilà, des bons cadeaux de 50, 100, 25 euros, voilà, pour offrir comme ça un bon cadeau et aller acheter un disque vinyle. Alors moi, je vous cache pas que j'y suis allé assez récemment et j'ai craqué pour un 45 tours. Oui, j'achète des 45 tours vinyle, voilà. Et il m'a coûté assez cher d'ailleurs parce qu'il est un petit peu particulier. C'est un 45 tours d'un artiste que j'apprécie énormément, dont j'ai déjà parlé, qui est un artiste italien qui s'appelle Andrea Laszlo De Simone, qui vit à Turin. Et il a effectivement sorti ce 45 tours. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais il était très indisponible dans les disquaires, chez les disquaires. Donc Pierrot de chez Sofa m'a indiqué que c'était à nouveau disponible. Donc je suis couru pour aller acheter cette rareté. Pourquoi ? Parce que c'est un 45 tours avec un livre de photos fait par le père de l'artiste. Et d'ailleurs, la pochette du 45 tours, c'est une photo extraite de ce recueil. On va peut-être écouter le titre qui s'appelle Vivo. Je trouvais que voilà, vivre à Noël, c'est pas mal.
Alors,
donc,
on
Vivo.
Écoute.
Dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale. Che sta tremando di terrore. La vita è breve, pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta.
Donc c'était Vivo d'Andrea Laszlo De Simone. Évidemment, vous pouvez l'écouter sur les plateformes de streaming, mais moi je vous invite à aller chez les disquaires. Alors chez Sofa, par exemple, rue d'Algérie, mais je pourrais citer aussi évidemment juste à côté Danger House, qui n'est pas très loin, Tiki Vinyl Store, tous ces disquaires, mais c'est la folie en fait à Lyon, le nombre de disquaires, et souvent des disquaires aussi spécialisés dans l'électro, dans la musique de techno. Donc en fait, chacun, chaque genre musical, eh bien, vous pouvez avoir votre disquaire. Donc moi, je vous invite à aller vraiment chez les disquaires. Et puis dernier point, moi, ce que j'adore quand on va chez un disquaire, c'est que les pochettes de disques sont magnifiques. Souvent, il y en a plein au mur. Et voilà, c'est très coloré, on est toujours capté par l'image.
Et puis c'est un grand retour aussi des lecteurs, des platines,
oui,
tout simplement, des
platines
disques. Ça se fait de plus en plus maintenant.
Fait,
il y a une
après...
époque où c'était quand même en voie de disparition.
Et puis moi, ça me rappelle un peu ma jeunesse où la FNAC n'était pas à l'endroit où est la FNAC aujourd'hui. Elle était de l'autre côté de la rue de la République. Et je me souviens, il y avait un petit escalator qui était pour une personne. On montait tout en haut. Dans les rayons de la FNAC, et là il y avait tous les disques vinyles et on pouvait écouter les disques, voilà. Mm-hmm. Et chez les disquaires aujourd'hui, par
on peut
exemple,
encore écouter.
Voilà, chez Sofa, on va chercher le disque, on va l'écouter à la platine, et puis évidemment après on l'achète, voilà. Et on l'offre pour Noël.
Pour Noël.
Voilà.
Merci beaucoup Guillaume. Gaëlle, quel est ton Gédéon cette semaine, la dernière de l'année?
Mon dernier Gédéon de l'année se passe toujours au Musée des Beaux-Arts de Lyon, puisque c'est l'exposition qui est consacrée à Pierre-Yves Baume. Son univers tout à fait atypique mêle sculpture, peinture, dessin, couture et assemblage. L'artiste, né en 1951, traite surtout de la figure humaine, la sienne et celle des autres. l'art pour viser l'universalité. Pierre-Yves Baume l'atteint grâce à un jeu de superposition qui joue volontairement avec la confusion. Car au final, qui sommes-nous véritablement? Pour concevoir ses œuvres, Pierre-Yves Baume utilise des matériaux non traditionnels. Le Musée des Beaux-Arts le classe ainsi parmi les artistes singuliers. Matériaux tels que fragments de miroir, tissus étoiles peintes, mais aussi des petits sacs de textiles suspendus comme des amulettes. Certains changeront à des fétiches, d'autres à des reliquaires ou des ex-voto. Saisissant également l'utilisation de petites boules de terre. Les observateurs les plus fins noteront sur ces boules de terre des marques de dents, car Pierre-Yves Baume malaxe, mastique et mord la matière. Dans l'œuvre « Le baiser », don récent d'Antoine de Galbert, l'artiste a fait dans la toile une multitude de petits trous. Chaque trou reçoit un petit tube dans lequel est installée une fine tige de métal sur laquelle est accroché un petit fragment de peinture. Regardez bien l'œuvre en adoptant tous les angles de vue. De biais, ce stupéfiant tableau sculpture est hérissé de tiges. Pierre-Yves Baume prend possession de l'espace au sens large, dont du recto verso, car l'œuvre peut être vu de face et au revers. Le Musée des Beaux-Arts propose un voyage au sein de créations définitivement hors normes. L'exposition est programmée jusqu'au 22 janvier 2024. Exposition recommandée. Plus d'informations sur mba-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. À l'année prochaine. Pour ma part, je vous propose une expérience multisensorielle au Palais de la Bourse, la chambre de commerce Métro Cordelier. Le collectif zurichois Projectile prolonge les illuminations avec la projection d'Enlightenment du 16 au 30 décembre. C'est une composition lumineuse en mouvement au son des célèbres 4 saisons de Vivaldi. Et tout ça dans un bâtiment à l'architecture spectaculaire. La projection dure 30 minutes et vous fera voyager dans un univers onirique unique. Pour réserver vos billets, prix variable selon votre situation de 7 à 16 euros et le tarif de groupe est à partir de 6 personnes. N'hésitez pas, prenez rapidement vos billets parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde et ça sera jusqu'au 30 décembre. La jauge est réduite. Pour plus de renseignements, eonariumexperience@.com. Vous retrouverez les références sur notre site internet. Merci beaucoup, passez une bonne fin d'année à tous et puis on vous donne rendez-vous, toute l'équipe ici présente, pour la rentrée en janvier. Merci beaucoup.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Mmh.